بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ خير شيخ سوء الإسلام Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir de nous réunir dans la Masjid Nour al-Islam de Saint-Denis pour célébrer un événement. Célébrer un événement qui remplit les cœurs de joie. Célébrer un événement qui permet aux personnes qui s'aiment de concrétiser cet amour comme Allah azza wa jal l'a permis, l'a rendu licite. Un événement qui va remplir la foi de cette moitié qui est nécessaire. Ce iman qui a besoin, qui se doit d'être complété par une moitié, tant une moitié par une personne physique que par le côté spirituel, ben c'est ce soir que ça se concrétise pour ces deux jeunes mariés. Donc c'est la cérémonie du mariage, du nikah, sunnah de tous les prophètes, de tous les anbiya, alayhimu salatu wassalam, et symbole également de la maîtrise des passions. Symbole de la maîtrise des pulsions et le respect des ordres d'Allah en canalisant l'amour, la fougue de la jeunesse pour faire en sorte que cet amour se concrétise uniquement par les liens licites, ja'iz, du mariage. Et cette intervention, elle a une petite particularité et on tient à souligner, elle a été préparée par les futurs mariés. Ils ont exprimé leur souhait de voir développer certains points dans le bayan, dans l'intervention. Ça peut paraître un peu original comme demande, mais ça traduit déjà un esprit, mashallah, fusionnel et un objectif commun qui va dans un même sens. Les mariés ont souhaité que nous faisions une rétrospective sur l'identité du musulman, notre relation avec Allah, ce que l'islam nous apporte, les actions avec la foi qui nous permettrait d'atteindre les plus hauts degrés de iman, le fameux ihsan, et comment est-ce que la relation de couple va permettre à ce jeune homme et à cette jeune fille, inshallah, et à tous les couples mariés, de progresser dans le din, de se rapprocher d'Allah azza wa jal, jusqu'à atteindre le degré du ihsan. Vous savez, comme on ne peut rien refuser à des jeunes mariés, donc on a accepté, et donc on va suivre, ce sera leur cadeau de mariage. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, ce genre de cheminement, de flashback, permettez-moi de le dire, de retour en arrière, lorsqu'on va analyser qui suis-je réellement, c'est quoi être un musulman, c'est quoi être un mu'min, c'est quoi être, faire partie de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cela implique et quels sont les devoirs, quelle est ma conception du présent, quelle est ma conception du futur? En quoi ma conception du futur, elle est spéciale? Parce que j'ai dans mon cœur, la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, et Muhammad Rasulullah, Mahomet Muhammad est le prophète d'Allah. Qu'est-ce qui fait de moi un soumis, un croyant? Et je vous assure, mes chers frères et sœurs, il est parfois beaucoup plus important de réfléchir, de méditer sur ces points, plutôt que d'aller parfois très loin dans la discussion sur les maslas, sur les fatwas, sur les divergences d'opinion, je n'appelle pas ça des détails, sur des points très techniques, très précis de la religion. Parfois, il est important de revenir vers les bases. Mon identité de musulman, mon identité de musulman, et le terme arabe, repris par l'anglais, musulman, qui traduit encore mieux cette identité d'être soumis à Allah. Je suis un musulman, j'ai fait istislam lillah. Je me suis soumis à Allah. J'appartiens à Allah. C'est Allah qui me donne la vie. C'est Allah qui me garantit ma vie, ma subsistance dans ce monde. Et c'est Allah seul qui sait quand il me rappelle à lui. Et c'est Allah seul qui me juge là-haut, auprès de lui, près de son tribunal, là où il n'y aura ni ma femme, ni mes parents, ni mes enfants, ni personne qui penserait, pas qui pourrait, qui penserait même apporter secours à son prochain, parce que là, on passe du monde, de ce dunya, au monde de l'au-delà. Et quand on franchit la frontière entre ces deux mondes, on laisse les sentiments de ce monde dans ce dunya. Quand on est enterré, excusez-moi, on parle de mariage, mais on descend un peu plus bas, quand on est enterré, le corps est enterré, le ruh est enterré, les sentiments sont enterrés. Le jour des comptes, il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de femme, enfant, mari, papa, noce d'or, noce de diamant. Il n'y a que moi, mes actions et mes bonnes, moi, mon iman et mes bonnes actions devant Allah Azza wa Jal. Donc, faire ce cheminement vers une compréhension saine de mon identité de musulman, connaître qui je suis, qu'est-ce que l'islam attend de moi, et comme j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, ma conception du présent, qu'est-ce qu'Allah attend de moi maintenant, et ma conception du futur, en tant que musulman, en tant que croyant, qu'est-ce que je sais de mon futur, comment se passera mon retour vers Allah, qu'est-ce que j'aurai à dire, à répondre, quel est le comportement qu'Allah attend de moi maintenant, et quelle est la relation entre ce que je fais aujourd'hui, jeudi soir, vendredi matin, et les conséquences dans la tombe et dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, ça c'est un point capital extrêmement important. Et le fait parfois de retourner, de méditer sur ces différentes étapes de ma vie de musulman. Quand je viens à la mosquée, c'est parce que je suis musulman. Quand je jeûne le ramadan, c'est parce que je suis musulman. Quand je vais au pèlerinage, au hajj, je suis musulman. Quand je donne la zakat, quand je lis le Coran, quand je fais le dhikrullah, quand je lis les salat ala nabi durud sharif, c'est que je suis musulman. Mais tout ça, ce sont des actions. Mais ça ramène vers une identité, vers une foi, vers une croyance, vers une conception des choses, vers quelque chose qui brûle en moi, qui m'oriente vers mon Créateur. Et ces actions-là me permettent d'avancer, de m'avancer, de me pousser vers Allah. Et c'est ces bases-là, parfois, qu'on a besoin de réviser. Parce que si notre umma, on est en train de perdre un peu en intensité, malgré qu'on ait des madaris, on ait beaucoup de structures, mais nous voyons un certain recul de la foi, parfois, chez nos jeunes et chez les moins jeunes, c'est que le musulman ne sait plus qui est Allah. L'origine de tous les problèmes, c'est que le musulman ne sait plus quand il se prosterne, devant qui il se prosterne. Quand il lit Subhan Rabbi al-A'la, il ne sait pas ce qui est al-A'la. Et il ne sait pas comment Allah est grand, comment Allah est élevé, Allah est Mustawa al-Arsh, comment dans le ciel Allah a créé des anges d'une grandeur extraordinaire, inconcevable pour un esprit humain. Et il tremble de peur devant Allah. Le prophète me dit qu'il y a un ange qui a été créé depuis qu'Allah s'est établi sur le Arsh et qui en position de sijda devant le trône d'Allah jusqu'à ce que l'ange Israfil souffle dans la trompe, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Et là, à ce moment-là, l'ange se relève, il va dire Subhanaka ma abidnak haqqa ibadatik. Oh Allah, toute pureté à toi, on ne t'a pas adoré comme tu le méritais. Des créatures extraordinaires. Israfil alayhi salam, depuis qu'Allah lui a confié sa mission qu'un jour tu auras soufflé dans la trompe, dans la corne, pour signaler la fin du monde. Il dit le hadith, le prophète décrit que Israfil a les yeux rivés vers le trône d'Allah, il n'ose même pas cligner les yeux de crainte que pendant cette fraction de seconde, Allah lui ordonne d'exécuter un ordre et qu'il prenne du retard. Ces anges, comment ils ont la crainte d'Allah? Moi, musulman, habitant à La Réunion, en métropole, quel que soit l'endroit, je dois essayer de comprendre qui est mon Dieu, qui est mon Allah, devant qui je me prosterne. Mes chers frères et sœurs, si chaque personne, de temps en temps, on essaie de réfléchir un petit peu sur le sens d'être musulman, je vous assure qu'on va avancer, mais surtout qu'on va avancer avec des bases concrètes. Pas que quand le mois de Ramadan arrive, tout le monde est là. À la masjid, elle est pleine de la mosquée, les tarawih, les salatul fajr, tout le monde est là, alhamdulillah. Mais le lendemain, le constat est ce que constate malheureusement tous les ans. C'est que les actions y sont, mais la base, le feu qui allume, qui anime le cœur du mu'mine, malheureusement ce feu, depuis longtemps, il s'est éteint. Et on a besoin de le rallumer en apprenant c'est quoi al-iman. Et ça nous permet d'éviter trois choses. Ça nous permet d'éviter, trois erreurs, l'absence de pratique. C'est quoi l'absence de pratique? C'est quelqu'un qui considère qu'il n'a pas besoin de pratiquer. Ce n'est pas une priorité pour lui. Ma priorité à moi, c'est remplir mon rôle de la société. Je suis médecin, je suis avocat, je suis commerçant, je suis enseignant. C'est ça mon travail. Je suis là pour ça. Et je donne mon corps, mon temps, mon âme, tout ce que je peux pour ça. Donc absence de pratique, tout en reconnaissant que je suis musulman. Mais absence de pratique, cette erreur, elle vient immédiatement du fait que je n'ai pas réalisé que j'ai été créé pour adorer Allah et que je meurs pour Allah, je retourne auprès de lui et que c'est lui qui prend les décisions de ma vie, de ce monde et surtout de l'au-delà, de l'éternité. Le monde où il n'y a pas de limite. Le monde où les plaisirs sont exceptionnels, mais où le azab, le châtiment d'Allah est également terrible. Une pratique éclairée, une compréhension saine de ma nature, de mon identité de musulman, me permet d'éviter une deuxième erreur qu'on constate, une pratique périodique. Là, on passe en revue les trois catégories de croyants. Celui qui ne pratique pas, celui qui pratique parfois. Hein, le mois de Ramadan, comme on l'a dit, il va être présent, les, en guillemets, les grandes nuits, on va être présent, mais après, il y a un relâche, il y a un recul. Parce que cette personne n'a pas réalisé que ma priorité, la priorité dans ma vie, c'est d'adorer Allah. Et quand on ne réalise pas la priorité, ben pourquoi on va le faire? Si je n'ai pas intégré le fait que j'ai été créé pour ça, pourquoi je le ferai? Si quelqu'un, excusez-moi, travaille, et il sait qu'il travaille, il est bénévole, il ne gagne pas d'argent, il n'y a pas de salaire, vous pensez qu'il va se démener au travail? Qu'il va essayer de faire de son maximum? Il va faire le strict minimum, ce qu'il peut faire, il peut faire. Quand il trichera, son patron ne le voit pas. De toute façon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme aboutissement. Pareil, si on n'a pas réalisé le retour auprès d'Allah, il est normal que la pratique devienne périodique. Et puis, troisième cas de figure, ce qui est un peu plus rare, mais ça concerne, en guillemets, j'aime pas trop le terme, les religieux, une pratique qui devient traditionnelle. Je viens à namaz parce que papa était bien à namaz, parce que Nana était bien à namaz, parce que Dada était bien à namaz, parce que Moulissa m'a appris à la madrasa et que j'ai vu les gens prier, je prie comme eux. Héritage culturel, sans vraiment réaliser, ça veut dire quoi un sijda? Le jour des comptes, il y a des gens qui, Allah musta'an, n'ont pas eu iman dans leur cœur. Ils auraient donné tout ce qu'ils possédaient pour un sijda devant Allah. Et moi, musulman, je me prosterne combien de fois par jour? Mais ce qui est extrêmement important, c'est de faire le lien entre ce geste et la réalité. La prosternation ne doit pas se limiter à un gestuel. La génuflexion, le rukou', ce n'est pas qu'un geste. C'est une soumission à Allah. Et c'est ça que j'ai besoin de décrypter afin de faire vivre chaque geste de mon quotidien, chaque geste du musulman, chaque geste du croyant. On va revenir, on parle du niqab maintenant. Allah nous a créés pour son adoration, c'est clair. Maintenant, le prophète dit que toute personne qui naît, il naît avec la foi. Mais par rapport à son éducation, une personne qui va naître dans une famille chrétienne aura une éducation chrétienne, juive, etc., etc. Maintenant, si quelqu'un a eu la chance de naître dans une famille musulmane, ou qu'au cours de sa vie, Allah lui a donné la lumière, lui a permis de voir le nour, de rentrer dans l'islam, ce qui est notre cas, nous, soit nous sommes nés musulmans, soit nous sommes devenus musulmans, nous devons remercier Allah. Parce que avoir la ilaha illallah dans notre cœur, mes chers frères, c'est le plus grand bienfait. Attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, c'est le plus grand bienfait qui nous ouvre, incha'Allah, qui nous garantit l'accès au paradis et un jour le contentement d'Allah. Nous ne remercierons jamais assez Allah de nous avoir donné la foi. Remercier Allah pour l'iman, c'est plus important que de remercier Allah pour la santé, pour les bienfaits, pour la famille, pour tout autre bienfait. Et nous devons en permanence demander à Allah de nous garder dans le droit chemin, de nous protéger d'une action, d'un péché, d'une parole déplacée, d'un geste qui n'aura pas été apprécié par Allah, qui peut causer notre perte. Le hadith dit qu'il y a des gens qui, durant toute leur vie, font des actions qui les approchent du paradis. Mais avant de mourir, ils font une grave erreur. Et Allah ordonne que leur nom soit inscrit sur les portes de l'enfer. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que quand je prie, je fais la salah, je lis dans chaque fatiha, « Ihdinas sirata al-mustaqim » « Allah, guide-nous vers le droit chemin », c'est-à-dire « Oh Allah, garde-nous dans le droit chemin, accordez-nous la mort en état de iman. » Ce doigt, nous devons le faire tout le temps. Il y a des gens, lorsqu'ils vont à Umrah, ils vont au Hajj, on leur demande « Mais qu'est-ce que vous allez demander comme invocation devant la Kaaba ?»« Je vais demander la réussite hein, pour ma vie affective, professionnelle, pour mes enfants, etc. » C'est très bien tout ça. Mais la première chose que je dois demander, « Oh Allah, vivre avec la foi, mourir avec la foi, que tu sois satisfait de moi, comme Malik al-Maud reprend mon âme, que quand je retourne auprès de toi, oh Allah, je retrouve un créateur qui est satisfait et qui me permet d'accéder au paradis. » Maintenant, dans la vie de ce monde, il y a deux aspects. Il y a, on va un peu plus vite, il y a ce qu'on appelle le côté ruhi, spirituel. C'est-à-dire, j'ai été créé pour adorer Allah, il y a donc le ibad, les actes d'adoration que je vais faire tout le temps. Après, l'autre aspect de la vie, c'est assurer mes besoins primaires de ce monde. C'est-à-dire, gagner ma subsistance, mon rosi, mon rizq qui est halal. Et là, nous voyons l'équilibre extrêmement juste. Quand on parle d'équilibre, c'est juste qu'il y a dans l'islam. Ça permet aux musulmans de faire la part des choses entre mon rôle de citoyen, de père, de mari, de commerçant, d'avocat, de médecin, etc. La fonction que j'occupe sur le plan familial ou sur le plan professionnel de ce monde fait la relation entre ça et fait la relation avec le fait que je sois un croyant et qu'il est de mon devoir de faire tahqiq, de concrétiser le but pour lequel Allah m'a créé, c'est-à-dire faire l'adoration d'Allah. Et l'équilibre doit être extrêmement juste. Il ne faut en aucun cas que le premier objectif dépasse le deuxième. Que le fait de travailler, gagner ma vie, ça devienne mon objectif. Parce que là, on serait dans l'erreur. Le prophète Ali salat wa salam dit un hadith que celui qui fixe son objectif principal, makanati dunya hammuhu, celui dont les biens de ce monde deviennent son objectif, alors effectivement, ja'ala faqrahu bayna aynihi, Allah a fait en sorte que cette personne sera, en ce sens, toujours habitée par le spectre de la pauvreté. La crainte de perdre, la crainte de ne pas gagner assez, l'angoisse du lendemain. Il n'y a rien de plus stressant que ça. Est-ce que mon magasin va encore tourner dans 2 ans, 3 ans? Est-ce que je vais pouvoir passer le relais à mes héritiers? Est-ce qu'il n'y aura pas une crise? Est-ce que l'euro ne va pas disparaître? Est-ce qu'il ne faut pas revenir vers l'or? Bref, toutes ces choses qui angoissent l'être humain. Ça, c'est dans le cas où mon principal objectif, ma concentration, c'est uniquement les biens de ce monde. Là, effectivement, quand Allah voit qu'un être humain, il ne se préoccupe que de ça, ben Allah fera en sorte qu'il va tourner, il rentrera dans ce cercle vicieux, il ne verra que ça, ses angoisses, ses craintes, ses espoirs vont tourner autour de sa vie, de ce dunya, et peu à peu, il oubliera le akhirah. Tandis que celui qui manja'ala, celui qui dont l'objectif principal est de préparer son retour auprès d'Allah, Allah va mettre ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah va mettre une richesse dans son cœur. Comment ça s'appelle cette richesse dans le cœur? Ça s'appelle le mot magique qui n'existe ni en français ni en anglais, quelles que soient les civilisations. Al-qana'a, être satisfait, avoir une paix intérieure. Ce qu'Allah m'a donné, alhamdulillah. Je remercie Allah et je demande à Allah de me permettre de l'utiliser dans le droit chemin avec baraka, bénédiction. Allah met cette lumière, cette qana'a de son cœur, premièrement, et Allah atat wa dunya wa hiya raghima. Allah fera en sorte que il va faire peu d'efforts, il va travailler bien sûr, mais le peu d'efforts qu'il va faire, ce sera bénéfique. Il va voir le dunya venir vers lui, même s'il fait peu d'efforts, et même si ça n'est pas son obsession, ce n'est pas son objectif premier. Parce que le rizq, qui sait qui donne le rizq? Qui sait qui donne la subsistance? C'est Allah. Une personne peut gagner une somme colossale, un salaire magnifique de 12, 13 000 euros par mois, sans voir la baraka, sans voir la bénédiction, sans trouver un quelconque refuge ou une quiétude avec ce revenu. Et une personne peut gagner beaucoup moins, mais Allah met baraka, il y a une sakina dans le cœur, et la personne trouve la réalité de ses biens, et il vit correctement. Tout ça, c'est dans les mains d'Allah, mais il faut trouver le bon équilibre, et jamais faire en sorte que ma quête du dunya dépasse ma quête du akhirah. Maintenant, l'islam nous garantit cet équilibre, tant sur le plan spirituel, matériel et psychologique. C'est un peu long, mais c'est pas moi qui ai fait le plan. Spirituel, par rapport à notre ibada. Matériel, quand quelqu'un est plongé dans l'adoration d'Allah, automatiquement, Allah lui enverra la baraka, la bénédiction. On va sauter quelques hadiths qu'on avait jugés pour illustrer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude d'ordonner à sa femme et ses enfants, lorsqu'ils avaient des difficultés financières, « Ya ahla, sallu, sallu, ô membres de ma famille, faites 2 rakats de salat et demandez et doit Allah, Allah va envoyer la bénédiction. L'ayat de laquelle Allah dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ » d'autres versets « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » celui qui a la crainte d'Allah dans son cœur, qui vit la crainte d'Allah, Allah lui ouvrira une porte. Il voit toutes les portes fermées. Il y a la crise, il y a le spectre de l'euro qui va peut-être chuter dans quelques années. Il y a plein de choses qui doivent nous angoisser. Mais quand quelqu'un a la crainte d'Allah dans son cœur, Allah ouvre une porte de bénédiction. Lui, il pense que c'est comme ça que je dois travailler pour gagner ma vie. Mais Allah lui envoie une baraka comme il ne l'imaginait pas, parce qu'il avait la crainte d'Allah dans son cœur. Cette notion d'équilibre, mes chers frères, elle est extrêmement importante. Maintenant, on va venir un petit peu plus vers le niqab. Déjà dans les actes d'adoration, là aussi il y a un équilibre. L'islam est une religion du juste milieu. Quand on a dit qu'elle apporte la tranquillité dans le cœur, c'est parce qu'elle apporte le juste équilibre. Dans ma relation avec Allah, dans les actes d'adoration également, il y a un équilibre à respecter entre trois choses. On va dire quatre choses, on peut arrondir à quatre ou à cinq. Le culte pur, la namaz, lecture du Coran, dhikrullah, ce qu'on appelle les ibad. Ensuite, le akhlaq, le bon comportement, important. Troisièmement, les relations avec les autres, avec ma mère, avec mon père, avec ma femme, mes enfants. Et quatrième point, dans mes relations professionnelles. Comment je travaille, comment je gagne ma subsistance. Parce que, comprenons bien, chers frères et sœurs, jamais je ne serai un bon croyant, bien sûr, si je ne fais pas ma salah. Ça, la question ne se pose pas. Si ce front ne se prosterne pas cinq fois par jour devant Allah, comment je demande, oh Allah, accorde-moi ton paradis le jour des comptes. Oh Allah, pardonne mes péchés. Ce front se doit de se prosterner devant Allah au moins cinq fois par jour. Parce que sinon, je n'ai plus les qualités du musulman soumis à Allah, premièrement. Deuxièmement, je ne serai jamais un bon croyant si je ne suis pas un bon papa, ou alors un bon mari, ou alors un bon garçon envers mon père qui est âgé. Qu'on comprenne bien ça. Je peux être un grand adorateur d'Allah, mais si je suis un mauvais garçon ou un mauvais père, je ne serai jamais un bon croyant. Je ne serai jamais un bon croyant si j'ai un comportement désagréable, bien sûr. Je ne serai jamais un bon croyant si je transgresse les ordres d'Allah dans la manière de gagner ma subsistance, mon risque. Donc l'islam c'est un tout, mais c'est surtout un juste équilibre. Et parmi ces actes d'adoration, et là on arrive au point et à la conclusion, parmi ces actes d'adoration, il y a le nikah. Il y a le mariage. Mais le mariage aussi, mes chers frères, ça c'est Allah Akbar, c'est extraordinaire, le nikah. Très souvent, comment on perçoit le nikah? Je l'aime, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, on fait une demande en mariage, les parents sont d'accord, on se fixe une date et on se marie. Il y a le côté, il y a le bonheur. Oui, c'est de la joie. Il vaut mieux un mariage qu'un enterrement, on est tous d'accord. Il y a la joie, il y a le bonheur, il y a cette motivation, hein, parce que c'est des gens qui s'aiment, qui vont concrétiser cette union, qui vont fonder un foyer. Ces deux familles qui vont apprendre à se connaître, à se fréquenter, c'est un nouveau départ de la vie. Donc le mariage est synonyme de joie et il doit rester synonyme de joie. Mais le mariage, en plus de ça, en plus du côté, on va dire, sentimental et passionnel, parce que nous restons des êtres humains, le mariage, le nikah, apporte un équilibre également de le dîn. On va se dire, oui, mais quelle relation entre le mariage et ma pratique de la religion? Parce que le mariage, on semble la qualifier comme étant la moitié du iman. Comme on l'a dit en introduction, le nikah me protège de l'adultère, me protège de ces péchés qui peuvent condamner le musulman. Et le nikah est avant tout une sunna. Le mariage m'apporte également un équilibre sur le plan financier. Alors là, comment on comprend? Je me marie, au contraire, il y en a qui savent combien ça coûte une salle, combien ça coûte... Tout ça, c'est de l'argent. On fait croire moi que m'y marier, et Allah va donner l'argent, tout à fait. Parce que dans le Coran, la Ta'ala dit « In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli ». S'il y a des gens qui craignent que je ne peux pas me marier parce que nos conditions, hein, un peu justes, on ne peut pas s'en sortir, Allah Ta'ala fait comprendre que si ils ont la crainte d'Allah, mais Allah va leur accorder la baraka. Le mariage sera synonyme de risque supplémentaire. Allah va accorder plus de bienfaits. Et enfin, le mariage est également synonyme d'équilibre sur le plan psychologique. Vous savez ça? Sur le plan psychologique également, le mariage apporte quelque chose d'énorme. Parce que dans le Coran, Allah dit « Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha li yaskuna ilayha ». Quand Allah crée Hawa, chose qu'on répète beaucoup, je sais, quand Allah crée Hawa, c'est dans une situation où Adam, il est malheureux. Il n'est pas malheureux, il est où Adam? Il est dans le Jannah. Adam est dans le paradis, il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, tout ce qu'il souhaite. Mais malgré ça, Allah crée Hawa. Parce qu'Allah sait qu'un homme a besoin d'une femme. Et quand un homme est près de son épouse, il trouve le sukoun, la sakina, cette tranquillité du cœur qui n'a pas de prix, qui ne s'achète pas. Donc le mariage est synonyme également d'équilibre psychologique. Maintenant, quand nous voyons tous ces aspects du mariage et qu'on a vu toutes les étapes de la foi, 1 plus 1 égale 2, l'addition c'est quoi? C'est par les liens du mariage. Le couple doit s'efforcer de s'entraider mutuellement, à gravir les échelons de la foi, passer d'étape en étape jusqu'à arriver à ce terme magique. que votre épouse a cité, qu'elle aurait voulu qu'on développe, mais qu'il est un peu tard quand même, et je comprends, voulez-vous marier? Le ihsan. C'est le rêve de toute croyance à l'ihsan. Arriver à un degré de foi que j'adore Allah exactement comme si qu'Allah est devant moi. Et j'ai la certitude dans toutes les situations de ma vie qu'Allah est en train de me regarder, de m'observer. Dites-moi, ô musulman, quelqu'un qui a eu cette yaqeen que dans toutes les situations de ma vie, Allah me regarde, m'observe. Va désobéir à Allah. Il va se dire que je ne me lève pas Fajr parce que c'est dimanche ou c'est pas Ramadan. Là, wallah. Mais ce ihsan, c'est le summum, c'est le plus haut degré de la foi. Et il n'y a rien de mieux que les relations de mariage, les relations de couple, où l'homme et la femme ont le même objectif. S'ils ont pu présenter un plan aussi parfait, hein, vous auriez pu faire carrière d'Ali Bayan, un plan aussi carré, c'est qu'il y a les mêmes objectifs et il faut travailler ces objectifs. Le mariage synonyme de bonheur, oui, le mariage est également synonyme de progression dans la foi. Et enfin, pour terminer avec le dernier point, le mariage est également synonyme de relation fusionnelle, de muhabba, d'amour, de passion. Et il y avait une citation que vous avez écrite, hein, qui est, je ne sais pas d'où vous l'avez sortie, le débat autour du message coranique ne se situe pas dans la confrontation du masculin et du féminin, mais dans le fait de pouvoir assumer la responsabilité qui nous incombe en tant qu'homme, en tant que femme, dans un cadre harmonieux qui nous permettra d'évoluer vers l'unité. Je ne sais pas qui l'a écrit, c'est bien fait. En tout cas, ça résume bien le principe de la religion. C'est que très souvent les médias essaient d'attirer notre attention sur le fait que l'islam serait une religion misogyne, où les femmes sont déclassées, sont considérées comme... C'est un faux débat. C'est un faux débat, hein, qui asphyxie les esprits et qui nous empêche d'avancer. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu que Aïcha, radiallahu anha, était maltraitée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque Aïcha mange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit où est-ce qu'elle a posé sa bouche sur le morceau de nourriture et il pose ses lèvres Moubarak sur le même endroit. Lorsqu'elle boit dans un verre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde, il prend le verre et il boit au même endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aller à la masjid, à chaque fois, il ne quittait pas sa maison sans embrasser sa femme Aïcha radiallahu anha. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il mangeait auprès de Aïcha, il prenait une bouchée de nourriture, il mettait dans la bouche de sa femme. Qui fait ça aujourd'hui? Qui fait ça aujourd'hui? Dites-moi! Avec tous ces grands discours de secret story, de ange, télé-réalité, avec cette conception de l'amour qui nous fait miroiter. Qui aime vraiment sa femme de la sorte? Comme le prophète alayhi salatu wa salam aimait Aïcha radhiallahu anha. Le prophète salam n'a jamais crié, jamais insulté, jamais bousculé, jamais frappé son épouse. L'histoire du bol cassé qu'on cite dans tous les bayans de Nikah, Aïcha elle s'énerve, elle jette un récipient de nourriture devant le prophète salam. Le prophète salam il sait qu'elle a été touchée dans son intégrité. Elle fait preuve de jalousie. Le prophète baisse, il ramasse les débris, les miettes, il ramasse sa nourriture, il ne dit pas un mot. Lorsqu'il y a eu un grand conflit avec quelques épouses, il s'est isolé. Il a pris ses distances, mais jamais, comme on dit, casser le cœur de la femme, jamais vexer sa femme. Mes chers frères, nous voulons le modèle prophétique. Le modèle prophétique, c'est dans l'habillement. Le modèle prophétique, c'est dans la barbe. Le modèle prophétique, c'est la fréquentation de la salat, de la masjid. Le modèle prophétique, c'est également aimer sa femme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait sa femme. Je peux être un musulman régulier, premier saf, avec mon kafni, mon turban, mon tachnama. Je peux peut-être multitâche aussi, plein de tachnama. Mais si je ne respecte pas ma femme, je ne serai jamais un bon croyant. Et c'est l'objectif, incha'Allah, de cette intervention que vous avez souhaitée, et c'est l'objectif que vous devez vous fixer, que par les liens du mariage, vivre ce bonheur, oui, mais également vivre la foi, progresser ensemble vers Allah. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de réaliser ce vœu qui vous est cher, que incha'Allah, chaque jour qui passe, c'est un jour qui vous rapproche de lui. Chaque jour qui passe, c'est un jour où vous verrez le muhabba, l'amour, l'entente, augmenter entre vous, qu'Allah vous accorde une dhurriyatan tayyiba, hein, une descendance pieuse, à vous de voir combien, mais beaucoup inshallah, faut que le prophète sallam soit fier de vous le jour des comptes, et qu'Allah mette beaucoup de baraka, beaucoup de bonheur dans ce couple et dans tous les couples de musulmans, et qu'Allah azza wa jal mette de la muhabba entre les deux familles qui vont s'unir également, et qu'Allah permette à tous ces jeunes hommes présents dans l'assemblée, et ces jeunes filles certainement, hein, ceux et celles qui veulent se marier, qu'Allah ouvre leurs portes, ouvre les chemins pour qu'ils puissent se marier. Les couples qui ont des difficultés, Allah envoie la solution, que inshallah on n'entend plus parler de divorce, de talaq tous les jours. Allah envoie la rahma, la sakina dans les cœurs. Et les couples qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, Allah leur permet également d'avoir des enfants. Nous devons souhaiter, mes chers frères et sœurs, beaucoup de bonheur mutuellement. Nous sommes à une phase de notre vie où jamais l'islam n'a été autant décrié, la cible des médias. On a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer main dans la main, avec muhabba, avec l'union. C'est fini l'époque où un groupe critique l'autre, l'autre regarde de travers. Il faut arrêter avec ça. Ça c'est tel vice, l'iblis. Ça c'est le piège de Shaytan. On a besoin d'avancer. Quel jasad al-wahid, comme un seul corps, un seul objectif, c'est arriver. Retourner auprès d'Allah et qu'Allah soit satisfait. Donc, jazakum Allah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.